Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir cet après-midi de recevoir Enki Bilal. Enki Bilal, pour vous présenter cet après-midi, j'ai envie de mettre en avant un homme libre affranchi autant que faire se peut des limites. Bien des gens se plaisent à prendre la posture avantageuse d'homme libre, mais chez vous, c'est une seconde nature héritée de vos origines, dans le sens où vous êtes né à Belgrade en 1951, dans un pays, la Yougoslavie, qui n'existe plus aujourd'hui. Périmente à vos yeux la notion de frontière et de nation. Une conviction sans doute renforcée par les horreurs qui ont été perpétrées dans les années 90 lors de l'éclatement de votre pays natal au nom d'intolérance religieuse et ethnique. Vous débutez en BD dans le mythique magazine Pilote, puis le moment venu, vous dessinez conjointement dans le non moins mythique Métal Hurlant, en refusant de choisir entre les deux. Un peu déjà rétif aux chapelles, au clan. Ouais. Malgré une association pour le moins féconde avec Pierre Christin, vous déciderez dès 1980 de prendre votre liberté scénaristique à l'occasion de la Foire aux Immortels. En 87, vous êtes distingué par la profession en devenant le 14e président du Festival d'Angoulême. Et 7 ans plus tard, en 93, vous constaterez que votre lectorat dépasse largement les frontières du public habituel de la BD, puisque le magazine Lire élira Froid Équateur comme le meilleur livre de l'année, tout genre confondu. D'ailleurs, votre œuvre a évolué en permanence, je dirais, vers l'effacement des frontières, puisque vous êtes parti des terroirs français explorer avec Christin dans les légendes d'aujourd'hui. Vous êtes ensuite passé aux affrontements entre les grands blocs géopolitiques. Vous avez plus qu'évoqué le terrorisme mondialisé dans le cycle du sommeil du monstre. Et aujourd'hui, avec la trilogie du coup de sang, vous aboutissez à un propos d'envergure planétaire qui met en scène, je dirais, presque plus une espèce que des individus, ou en tout cas une espèce à travers des individus. Et bien sûr, comment ne pas évoquer le thème de l'hybridation qui parcourt et qui structure vos bandes dessinées, vos créatures mi-humaines, mi-animales, vos croisements machines, et notamment dans les couleurs de l'air, les poissons, les mammifères marins qui sont en transhumance dans les cieux colorés des pages finales de l'album. Vous ne cantonnez pas non plus votre art à l'album de BD. Vous avez réalisé des affiches de cinéma, des décors, des costumes, des couvertures de livres, des pochettes de disques. Vous avez réalisé 3 films, un clip pour Brigitte Fontaine. Vous réalisez aussi la mise en scène. Vous avez aussi réalisé la mise en scène d'un texte de Fabienne Reynaud, Suspection. Vous êtes peintre. Donc c'est peu dire que vous n'aimez pas rester enfermé dans des cases et que vous semblez jouir de cette liberté de tout essayer, peut-être parce qu'elle contient une part de mise en danger stimulante pour votre créativité. Alors, j'ai choisi une citation de Ionesco pour conclure cette présentation qui dit « Plonge dans l'étonnement et la stupéfaction sans limite, ainsi tu peux être sans limite, ainsi tu peux être infiniment. » Et avec, c'est un peu la direction que j'aimerais essayer de donner aux premières questions, c'est avec cette nouvelle trilogie du coup de sang, dans La couleur de l'air et La conclusion, on peut peut-être se demander si par certains côtés, Enki Bilal n'a pas été jusqu'à se libérer en fait de Bilal.
Ça commence fort. Merci pour la très complète et très belle présentation.
Merci.
Vous avez parlé de liberté. Et je crois que c'est un tout petit. Enfin, c'est vraiment le point central de la chance que j'ai en exerçant ce métier. Vous avez évoqué aussi les différents aspects, vous avez cité tous les domaines que j'ai explorés, ou que j'explore encore. Mais pour moi, tout ça est lié, tout ça fait partie d'une même démarche, tout ça fait partie d'un... cette partie de liberté qui est le cerveau humain et qui peut s'exprimer librement, voilà, à travers des techniques. Alors évidemment, je n'ai pas fait de musique parce que je suis incapable d'en faire, ça me manque beaucoup, mais il faut s'arrêter à un certain moment. Tout tourne dans mon travail, effectivement, autour de l'image, la représentation visuelle, graphique, mais aussi, énormément aussi, autour des mots. Le verbe, l'écriture, c'est quelque chose de très important pour moi. Je suis très sensible à l'écriture. C'est d'autant plus intéressant de dire ça qu'on est dans un lieu qui la célèbre, hein, de l'écriture. Je crois qu'on ne peut pas s'en passer. Et moi, l'une des chances que j'ai eues, c'est celle d'être arrivé dans un pays à l'âge de 10 ans, un pays nouveau, neuf, dont j'ignorais absolument tout. Et donc, le fait de découvrir une langue sur le tard, bon, 10 ans, c'est tard quand même, j'avais déjà une langue maternelle qui était le serbo-croate. Oui. C'est une chance énorme. Moi, je l'ai vécu comme ça, en fait. De se retrouver dans un pays où tout d'un coup, alors il y a une langue nouvelle, mais qui me plaît. Et en plus, il y a des magazines comme ça qui sortent toutes les semaines où il y a du dessin, où il y a du texte. Et ça s'appelle la bande dessinée franco-belge. Je découvre ça et je me dis, je suis tombé dans le pays idéal pour ce que j'ai envie de faire, pour mes rêves, pour mes fantasmes. Et du coup, voilà. L'image et le verbe, le texte se rencontrent à ce moment-là.
Ouais, c'est donc
pour... Mais tout ça est lié. Donc, quand je fais un film, ça me paraît tout à fait dans la logique des choses, une scénographie aussi. Tout ça est porté par ce qu'on appelle, peut-être un peu de manière raccourcie, un univers visuel. Mais moi, j'admets tout à fait ce mot. J'ai développé un univers. Et cet univers, évidemment, est... peut se connecter, se connecte et a une notion un peu prospective. Donc, comme l'art, pour moi, est une arme prospective importante, j'en profite. Et cette liberté est effectivement au cœur du débat. Et c'est une chance énorme. J'en profite tous les jours.
Je vais resituer un peu la trilogie actuelle. Donc la couleur de l'air conclut donc un cycle, on va dire, qui a débuté avec Animals et Julia et Rome, dans lesquels on croise bon nombre de personnages. Et le contexte est donc, on va dire, post-apocalyptique, puisque vous avez choisi dans cette trilogie non pas de décrire une apocalypse, mais plutôt l'après. Et donc sur cette planète Terre qui se libère de l'espèce humaine, qui se recompose, on peut se demander si c'est pas aussi l'expression d'un besoin de rupture dans votre parcours artistique, notamment au niveau graphique, puisque après la tétralogie du Sommeil du Monstre, qui était vraiment parcourue de couleurs et de violence, vous, avec Animals Z et Julia et Rome, vous avez tenté l'expérience du monochrome. C'était un besoin de s'alléger, en quelque sorte.
Oui, c'est exactement ça. C'est la pratique un peu... danse comme ça d'acrylique, de peinture sur le cycle précédent, m'a aussi rassasié. Enfin, à un moment donné, on avait trop mangé, on avait trop abusé de certaines substances. On se dit, voilà, il faut que je revienne à quelque chose de différent. Et je trouvais que la thématique, un peu avec un terme que je n'aime plus trop, écologique, on va dire, du coup de sang, dans ce que je voulais faire, avec Animals d'abord, ça se prêtait à un retour au dessin pur. Voilà. Alors j'ai opté pour la technique du dessin à crayon gras noir sur papier teinté avec des rayons de blanc, et puis il y a eu un peu d'autres couleurs, mais très peu. Donc ça donne effectivement ce côté assez monochrome, avec dans le premier volet la notion de l'eau, donc plutôt un gris bleu, dans le deuxième volet la terre, côté ocre, donc c'est Julia et Rome. Puis dans le troisième, un peu toutes ces couleurs monochromes qui se succèdent avant d'arriver à l'ouverture sur la couleur. Bon. Alors, effectivement, il y a la technique qui va avec le sujet, mais le sujet est forcément moins grave que les précédents. Vous avez parfaitement raconté mon parcours. J'ai effectivement énormément donné avec Pierre Christin. On a d'abord sur le terrain local, français, hein, le terroir français, la société française. Donc, avec ce regard qui caractérise Christin, qui était professeur de journalisme ici, à Bordeaux, à l'IUT. C'est une ville où il a passé énormément de temps. J'allais le voir ici de temps en temps. On est restés très amis. Et on a fait ce parcours qui s'est effectivement enrichi après de deux épisodes assez emblématiques pour nous, qui sont les phalanges de l'ordre noir, qui est un sujet sur l'extrême droite européenne dans la fin des années 70. Et ensuite, la partie de chasse qui est la vision prospective, on va dire, de la fin, de la chute du communisme. Donc après ces thématiques assez très ambitieuses, qui ont fait un peu bouger la bande dessinée quand même, avec cette dimension géopolitique et idéologique, on s'est séparés, entre guillemets, sans se séparer, on a continué d'autres livres, mais en bande dessinée, on s'est dit, on a fini. Mm-hmm. On avait une idée, c'est d'en faire un dernier, mais comme on avait été un peu surpris par notre prémonition sur Partie de chasse, on s'est dit, si la prémonition marche sur le prochain, il vaut mieux ne pas le faire.
Vous aviez un projet sur la Troisième Guerre mondiale.
Voilà, bon. Vous y avez échappé, nous aussi. Donc le temps a passé. Moi, j'ai fini effectivement mon cycle à Nicopol, etc. Et puis il y a eu ensuite le monstre qui m'a été dicté, mais imposé par l'actualité, par les événements du monde. Donc la fin de la Yougoslavie, son implosion dans des conditions un peu obscènes que l'on sait. Donc, au sortir de ce cycle, en plus, cycle perturbé en plein milieu, dès le deuxième volet, 32 décembre, perturbé par, là aussi, une prémonition terrible qui s'est révélée, qui était le fameux 11 septembre 2001, avec les deux tours abattus par Al-Qaïda. Donc voilà, je sors de ce cycle avec le sentiment d'avoir quand même accumulé énormément de sujets graves, ce qui m'a valu une espèce d'image de quelqu'un de sombre, torturé et pessimiste. Bon, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand même, je vous rassure.
Ça ne
vous inquiète pas d'ailleurs, donc ce n'est pas votre problème. Tout va bien, je suis plutôt équilibré. Mais effectivement, il y a quand même des thèmes qu'on ne peut pas éviter. Voilà. Et puis, je pense, vous l'avez dit aussi, peut-être que la naissance... balkanique, ma naissance balkanique me prédisposait peut-être un peu plus que si j'étais né à Neuilly-sur-Seine à parler de ces sujets-là. Bon. Donc, je me retrouve face à ce nouveau thème qui forcément découlait des précédents. Alors, je ne dis pas que c'est plus léger dans la mesure où c'est une fable et qui englobe finalement l'après, ce qui arrive maintenant. Ce qui arrive maintenant, c'est ce qui était dans mes thèmes précédents. C'est-à-dire, on est encore dans l'obscurantisme. Oui. Ça ne s'est pas arrêté avec le 11 septembre, ça n'a fait que s'amplifier, et on est en plein dedans. Là. Donc, je n'allais pas continuer à aller sur ce terrain, donc je vais beaucoup plus loin, en disant simplement que qui peut stopper cette absurdité humaine pour l'instant? Les hommes n'y arrivent pas, visiblement.
Non.
Hein, depuis le début du XXe siècle, les catastrophes s'enchaînent. Le devoir de mémoire ne fonctionne pas, la mémoire ne fonctionne pas, le pouvoir continue à exercer sur des hommes politiques une obsession du court terme, dont on n'avance pas. Voilà. Donc, je me suis dit, qui peut arrêter ça? Et là, c'est là que je pars dans une espèce de délire, une affabulation, mais légère et amusante. Je me dis, c'est la planète elle-même qui peut décider. Donc, elle va piquer un coup de sang, et on va voir ce qui deviendra. Donc, voilà, c'est comme ça que naissent ces trois volumes qui sont... qui ne sont pas des volumes d'une histoire classique, traditionnelle. Ce sont des tranches de vie de groupes qui ont survécu. Donc, on ne parle pas des morts. Hein, on est face à des gens qui sont face à leur destin, face à l'inconnu, et qui progressent un peu à la manière des cow-boys ou des pionniers qui allaient découvrir l'Ouest américain ou toutes les autres contrées du monde que les hommes ont passé leur temps à découvrir. Donc, c'est à la fois léger et en même temps ça pose des questions et le dernier volet évidemment rassemble un peu les fils et nous propose une autre solution, une autre voie. J'en dirai pas plus.
Non, parce que la fin est à ne pas vraiment à découvrir.
Oui, si on peut, on, voilà, si ouais. on feuilletant, on évite la dernière page, c'est bien. C'est plus... Sinon, bah, tant pis. Voilà.
Donc le retour à la couleur dans les couleurs de l'air, donc finalement, c'est pas parce qu'au bout de 4 années partagées entre le gris et l'ocre...
J'ai fait de la peinture, j'ai fait des trucs très colorés par ailleurs. Quand même.
C'est pas une expression d'un manque en fait, c'est, ça appartient plutôt à la structure du... Ça du nourrit récit. La structure du récit.
Ça fait partie du projet, évidemment, que le retour à la couleur fait partie du projet. Mais en fait, c'est vrai, j'avais envie de la retrouver, la couleur, quand même. Ouais. J'avais envie de sortir de cette grisaille un peu plombante, c'est vrai.
Vous avez parlé de fable, de western, effectivement. C'est vrai que y a pas mal de morceaux d'anthologie, presque de western dans Animals, avec le duo de
cavalier,
de ouais. cavalier. Et même dans La couleur de l'air, le passage assez hallucinant avec
Cannibal.
Avec le cannibale, m'a effectivement très fortement fait penser à du western. C'est donc vous êtes un fan de western, donc.
Oui, mais j'aime bien sûr, j'aime beaucoup ce genre. C'est en fait les premiers films que j'ai vus quand j'étais gamin. J'étais encore à Belgrade. On avait quand même accès à du cinéma américain d'ailleurs. Hein. Tito était plus souple que Staline sur ce coup-là. Et donc j'ai pu voir pas mal de westerns mythiques avec Gary Cooper, Burt Lancaster, Richard Widmark, enfin tous ces acteurs extraordinaires. Donc c'est... Et puis en même temps, bon, au-delà du western, c'est quand même l'histoire des hommes. L'histoire des hommes passe par ces périodes où on découvre. Donc le western, c'est devenu pour tout le monde les cow-boys et les indiens, mais à l'Est, en Sibérie, en Chine, partout, il y a eu des moments où les populations se déplaçaient et découvraient des contrées nouvelles et s'affrontaient forcément toujours à l'inconnu. Et donc l'idée du western collait parfaitement à cette forme de mise à plat que la planète faisait elle-même avec ses propres paysages. Elle se recomposait, donc elle modifiait les règles, les cartes étaient rebattues et on était dans quelque chose de nouveau pour tout le monde. Et c'est comme ça que donc les choses se sont développées. Mais effectivement, c'était un prétexte aussi pour moi de me retaper tous les westerns et d'acheter en DVD tout ce qui existait en western, presque de manière un peu ludique. Je me suis amusé à revoir tout ça. Ça ne m'a pas forcément énormément servi, puisque les bases, je les avais déjà culturellement, on les a. Quand on a vu 5-10 westerns qui vous ont marqué dans votre adolescence, vous avez tout compris.
Ouais, effectivement, ça revient très vite à la lecture. Ouais. Justement, ce passage western dans La couleur de l'air, donc vous entrecroisez deux fils narratifs à ce moment-là entre donc le cannibale qui souhaite déguster une oreille de Lester, si je
pour commencer,
et parallèlement
un amuse-bouche, on appelle ça une mignardise. Non, une mignardise, c'est après. Non, je n'ai pas prévu le menu complet, mais c'était...
Et parallèlement à ça, vous mettez en scène un repas quasi gastronomique dans une maison volante. Et voilà, ce passage d'une tonalité finalement assez, certes très noire, mais c'est quand même assez humoristique en fait. Et l'humour est très loin d'être absent de votre œuvre en général, mais j'ai trouvé notamment dans ce passage qu'il était particulièrement mis en avant aussi, ce qui représente aussi sans doute une rupture de ton par rapport aux albums précédents.
Je suis très, très heureux que vous le notiez, mais je trouve que l'humour m'accompagne depuis longtemps, sinon je ne pense pas pouvoir avoir pu développer ce type de... Dans la Force immortelle et dans Nicopole, il y en a énormément d'humour, quand même, il me semble, hein.
Même dans le sommeil du monstre.
Et même dans le sommeil du monstre. Il est noir, il est dur, mais ouais. Il y en a énormément.
Je me souviens d'un passage où dans le dernier volume, dans une réception à propos d'une citation de Baudelaire sur la foule, où les deux personnages disent que Baudelaire peut aussi raconter n'importe quoi. Ouais. Connaissant votre passion pour ce poète, ça m'avait fait assez sourire.
Il y avait ça, mais il y avait plein d'autres choses, ouais. Y compris des choses... sur la dureté de la situation de Sarajevo pendant la guerre, où où j'ai été d'ailleurs pioché aussi des choses réelles, hein, qui, où effectivement quelqu'un s'apesantit sur un téléviseur Sony qui a été abattu par un sniper. Enfin bon, on est dans quelque chose de... Il faut, non, de toute façon, je veux dire, vous savez, ces situations difficiles, délicates, et je parle de Sarajevo pendant la guerre, pendant cette guerre, pendant que Sarajevo était bombardé, comme ça, c'est une ville qui est enfermée dans une enclave, et donc des montagnes alentour, les bosno-serbes balançaient, vraiment bombardaient, c'était horrible. Et au sortir de cet enfer, de quelques années, les Bosniens de Sarajevo avaient redécouvert la solidarité qui marquait d'ailleurs la Sarajevo avant la guerre, parce que c'est ce qui a déplu finalement aux nationalistes et aux intégristes religieux, c'était que des populations issues d'origines différentes, ce qui est le cas des Balkans, puissent vivre ensemble et s'aimer, procréer ensemble, se cultiver ensemble, et c'était ça qui était magnifique dans Sarajevo. Et donc cet acharnement sur Sarajevo a redonné une vitalité, une force à cette population qui a découvert encore plus. Tout est devenu exacerbé dans les moments de guerre, c'est ça qui est difficile. Et la créativité également, il y avait des pièces de théâtre qui étaient montées comme ça, de manière impromptue. Bon, bref, c'est des moments très forts, très, très difficiles, et donc il fallait les évoquer. Donc c'était un peu la matière première du sommeil du monstre. Je ne sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs, parce que j'étais parti là-dessus. Une digression, mais comme quoi tout est lié.
Oui, tout à fait. On parlait un peu des ambiances que vous développez donc dans Animal Z, Julia et Rome et La couleur de l'air, donc des choses peut-être un peu plus légères, ludiques. L'onirisme aussi, j'ai trouvé, était une des bases de votre travail sur ces albums-là. J'ai voulu citer Ionesco en fait à la fin de ma présentation, parce que
je n'ai pas cité Ionesco, moi.
Non,
il n'y est pas dans mes.
Mais enfin, j'ai l'impression qu'il est un peu présent.
Il est présent par l'absurde qui caractérise certainement, absolument.
Je me suis demandé jusqu'à quel point vous aviez été imprégné, stimulé par le théâtre de l'absurde, donc pour cette série-là.
Je pense que ça c'est culturel. On n'a pas forcément besoin de se citer. Ça fait partie de nos origines à tous les deux, par exemple. Même si lui est roumain d'origine, oui. Et que c'est pas tout à fait la même culture que la culture slave des Balkans. Mais non, ça me permet de souligner aussi cet hommage à la langue dans ces trois albums. Toutes ces citations, évidemment, c'est pas pour essayer de briller, parce que c'est des citations, je les connaissais pas par cœur. Hein. Je déteste les gens qui citent sans arrêt, au bout de chaque phrase, une citation. Ça me paraît toujours absurde et ridicule. Mais là, non, c'est un jeu, parce que j'ai bâti une espèce de d'univers culturel de la planète elle-même. Elle décide de se réorganiser. Elle fait le tri, finalement, entre les humains qui ont survécu. Hein. Elle ne les a pas tués, mais ils ont survécu. Certains ont survécu. Et elle les met à l'épreuve. Par exemple, le deuxième volet, Julia et Rome, elle piège des gens de manière inattendue, qui sont dans le déplacement, dans la survie. Elle les piège dans un lieu comme ça, une espèce de ruine en plein milieu d'un désert improbable, lieu on ne sait pas exactement où ça se situe. Et elle les piège et les amène à leur insu, les amène malgré eux à rejouer Roméo et Juliette de Shakespeare. Tel point que les gens ne s'en rendent pas compte, sauf peut-être le plus vieux, le plus âgé.
Lawrence,
le aumônier multiconfessionnel, et qui tout d'un coup se dit, mais finalement, est-ce que je ne serais pas, moi, Lawrence, le frère Laurent ? Parce que c'est quand même étrange, quand même. Il y a un Merkt qui vient de se faire buter par un Tib. Est-ce que Merkt, ce ne serait pas Mercutio, Tib, Tibalt ? Et puis la fille qui est là, elle s'appelle Julia, et le type qui est aussi à côté, là, il s'appelle Rome. Bon. Voilà, ça fait partie de ce jeu qu'on peut faire aussi avec le lecteur. Alors je sais que ce bouquin, il a déstabilisé énormément de lecteurs de bande dessinée classique. J'ai même lu une critique, un journaliste disait que le scénario n'était pas original. C'est vrai, s'il voulait dire que je l'avais emprunté en partie à Shakespeare, il a raison, mais ce n'était pas ça qu'il voulait dire. Mais en tout cas, ce qui était très intéressant, c'était que cette épreuve, cette mise à l'épreuve par la planète se termine par quelque chose de... Où ça se finissait mal, comme dans Roméo et Juliette. Et du coup, c'était la fin, finalement, de cette trilogie, où ça se finissait mieux. Et bien, en l'occurrence. Donc, cette part ludique au milieu de la trilogie est très importante aussi, parce que la mise à l'épreuve de la planète sur les humains prouve qu'ils sont capables de réfléchir, de se souvenir et de s'aimer. Et donc, c'était ça qui était important dans ce deuxième volet.
L'amour, c'est presque ce à quoi on aboutit à la fin, sans dévoiler la fin. Parce que finalement, les personnages finissent par perdre même leur identité.
Même la mémoire.
Leur mémoire. Ça m'a vraiment interpellé, parce que je sais à quel point vous êtes attaché à la mémoire, justement, comme outil, notamment culturel, et puis comme outil pour se souvenir des catastrophes, des horreurs, et essayer de ne pas les reproduire. Et donc voilà, que vous fassiez perdre la mémoire à vos personnages, ça m'a...
Je me suis mis à la place de la planète, finalement. Et je pense qu'elle aurait été agacée. Je pense qu'elle est très agacée, finalement. Ça se trouve, elle est vraiment vivante, comme je l'ai dit, moi. Elle doit être très agacée par le fait que l'homme ne tienne pas ses promesses, que son devoir de mémoire qu'il brandit à tout bout de champ, il ne l'applique pas à lui-même d'abord. Donc, peut-être que la meilleure des solutions, c'est d'abraser la mémoire immédiate, inutile, mais tout en préservant, c'est ce qu'elle fait, la planète. Du coup, les gens, ils finissent par ne plus savoir comment ils s'appellent. Mmh. Mais ils ne sont pas devenus idiots pour autant, non. Ils ont toutes leurs facultés intellectuelles. Et donc, ils sont prêts pour un nouveau départ, pour une nouvelle... C'est une mise à jour, si on parlait de manière techno-numérique, on dirait une mise à jour. Et la planète fait une mise à jour, et elle efface l'ancien disque dur qui a finalement failli. En fait, c'est le constat d'une faillite. Cette fable, c'est un peu ça. Il y a faillite et on recommence tout. Voilà. Il n'y a pas fin plus optimiste que ça. On recommence tout.
Surtout que vous misez sur l'association, puisque...
Alors c'est plus pervers. Mais ça, c'est la planète qui propose, qui oblige.
Oui.
Qui oblige et qui va distribuer des programmes, tout simplement. Il y a des gens qui pensent que le marxisme peut revenir d'une manière ou d'une autre. Et peut-être que c'est ça, en fait. C'est le côté marxiste de la planète. Peut-être qu'elle saura utiliser le marxisme de base de manière intelligente. Évidemment, si elle laisse ça aux hommes, ça foirera forcément.
C'est ça.
Bon, il n'y a rien de politique dans ce... la planète est souveraine et...
C'est justement peut-être l'occasion maintenant de peut-être dissiper, pas un malentendu, mais de vous placer sur un plan écologique, peut-être un peu dans la position du lanceur d'alerte finalement. Mais j'ai pas l'impression que vous souhaitiez être rattaché à un mouvement politique.
Non.
Plutôt de faire peut-être appel donc aux responsabilités individuelles de chacun en termes de préservation de l'environnement, d'écologie en fait.
Oui, mais enfin, je pense que le rôle d'un artiste, c'est pas de devenir militant. Je pense qu'on peut, son rôle, c'est de balancer des points de vue, s'engager dans sa perspective, son regard, quelle que soit la manière, ça peut être à tous les niveaux. L'écologie politique, on a vu ce que ça donnait, c'est-à-dire absolument rien. C'est même pitoyable la manière, par exemple, dont un type qui aurait pu représenter justement un regard un peu neuf, un peu désolidarisé de cet aspect purement politique, qui est un type controversé parce qu'il vient des médias, etc., qui est Nicolas Hulot. On voit la manière dont il a été évincé, écarté du système électoral interne du parti vert, qui n'avait rien à envier au parti stalinien, en l'occurrence. Donc tout ça pour qu'on ait une ministre, enfin pas une ministre, mais une candidate à lunettes verte ou rouge qui ne donne rien. Enfin bon, on est dans... C'est absurde. Donc c'est ces petits pas qui ne servent à rien. Donc je pense que Je pense que ça passe, ce message-là, en tout cas cette prise de conscience, doit se passer de l'aspect politique. C'est autre chose. C'est une vision, en plus, globale. Hein, c'est la planète globalement qu'il faut essayer de considérer. Ce n'est pas, c'est pas les sièges à l'Assemblée. Quoi.
Il y a un autre aspect, d'ailleurs vous le faites dire, je crois, par un de vos personnages, c'est votre position par rapport à la religion, en fait. Il y a un côté, donc un côté un peu Arche de Noé dans la couleur de l'air, notamment dans ce dirigeable, le dirigeable Garbage, qui vers la fin devient le refuge de multiples espèces vivantes. Et même globalement dans le cycle, voilà, la planète Terre qui s'éveille à elle-même, qui devient agissante, renvoie finalement à toutes les mythologies de la déesse mère. Ça m'a aussi fait penser à la théorie de James Lovelock sur la théorie Gaïa, sur la Terre consciente. J'ai l'impression que vous, malgré votre détestation de la religion, finalement, vous y venez, mais sous une forme inédite un peu.
Oui, mais la religion, ça englobe le tout, un tout. C'est un récit, c'est à chaque fois un récit global. Donc, on est forcément dedans. Il est difficile de s'en extraire, forcément. Alors, l'idée de la... C'est un gros travail d'imagination qui a été fait. Hein. C'est quand même extraordinaire quand même, oui. D'avoir inventé tout ça, quel que soit le monothéisme. Il y a de la matière grise là-dedans et je trouve ça pas mal. Mais en tout cas... Si on regarde bien au début, les premières pages, les premiers dialogues entre les deux jumelles, la religion est totalement désamorcée, point de vue, directement.
Directement.
Dieu le premier, est désamorcé. Et puis, de toute façon même, la notion d'arche de Noé, dans un zeppelin pourri qui vole tant bien que mal et qui transporte, qui s'appelle poubelle, hein, oui. Garbage. Et qui transporte du nucléaire prêt à exploser, bon, bah, ça va, il y a mieux comme Arche de Noé. Donc, mais en tout cas, ça marche quand même.
D'accord.
Et la planète fait le tri. Voilà. Elle fait le tri entre le vivant et ce qui doit passer la poubelle. Et ces volcans servent de poubelle pour aspirer les déchets. Voilà, donc c'est vraiment très... Mais c'est très ludique en même temps comme narration.
Pour revenir à la littérature, on a toujours l'impression que chaque album presque est créé un peu sous le patronage d'un auteur en particulier. Par exemple, Pérec dans le Sommeil du monstre. Moi, j'ai trouvé qu'on pouvait penser à Gérard Manset aussi pour Animal.
C'est un clin d'œil, Gérard Manset, mais c'est assez loin de ce qu'il raconte lui dans ses textes de chansons. Mais en même temps, on se croise dans certaines formules verbales. Oui, c'est quelqu'un qui m'a inspiré sur pas mal de points dans mes débuts en écriture.
Ouais. Et donc, bon, Julia et Rome, évidemment, c'est...
Ah, c'est clair.
Voilà, c'est très clair. Et je me demandais justement si un auteur, si vous aviez côtoyé un auteur pendant la création de La couleur de l'air.
Non, franchement pas. C'est peut-être parce que tout simplement, La couleur de l'air, c'est un peu ça synthétise les deux précédents. Et je vais vers cette espèce d'essentiel d'ouverture finale. Mais en même temps, même Pérec, c'était surtout le « je me souviens », bien sûr. Après, c'est tout le monde connaît. Et qui convenait parfaitement à la narration par flash de mémoire du personnage central de du Sommet du monstre. Et Shakespeare, c'était évident parce que c'était le texte. Et que lui-même, ce texte apparaissait dans la bouche des personnages tout d'un coup de manière inattendue. Même, il se rendait compte qu'il disait du Shakespeare alors qu'il... que la plupart de ces personnages n'avaient jamais lu. Donc, c'est des fonctions très, très, très précises, narratives. couleur de l'air est plus libre et en même temps plus tenue, parce qu'il fallait aller au bout, il fallait arriver à ce que tout le monde se retrouve.
Vous aviez un plan d'ensemble dès le départ ?
Absolument pas.
Pas du tout ?
Non, absolument pas. C'est vers la fin de Animals que je me suis dit, il faut que ce soit une trilogie au moins. Je commençais à sentir le potentiel de cette idée de planète qui se recompose et qui décide de réagir simplement. Et puis en plus, quand on fait une histoire comme ça qui est souple et libre, qui est flottante, hein, j'aime bien cette notion flottante, on est aussi ouvert à tous les événements et les événements du monde qui se déroulaient en parallèle n'ont fait que me confirmer que c'était quand même un thème extrêmement important, que c'était un thème inusable et qu'on n'était pas prêt d'en sortir, de cette incapacité à prendre conscience. Donc voilà, il y avait en plus le sentiment qu'il fallait y aller. Voilà. Et donc ça s'est fait, le deuxième volet s'est imposé à un moment donné, l'idée de l'amour, il fallait sauver l'amour, voilà, c'était ça l'idée. Il faut sauver l'amour pour que le troisième volet puisse avoir lieu. Donc Roméo et Juliette, forcément, l'histoire la plus emblématique, tout le monde connaît l'histoire, tout le monde sait que ça se finit mal, que c'est une fin déchirante, parce que ça se joue à quelques secondes près. En plus, moi, j'avais travaillé avec Angelin Preljocage, le chorégraphe. On avait fait Roméo et Juliette. J'avais fait décor, costumes. On avait travaillé dessus. Donc, c'est une façon de retrouver aussi un peu un territoire connu. Et puis, ensuite, le troisième volet, tout naturellement, je savais que les personnages des deux précédents, plus les nouveaux du troisième, allaient à un moment donné finir par aller vers ce lieu, espèce d'Eldorado promis. La couleur, je savais qu'elle reviendrait, je savais qu'ils allaient se retrouver, mais les trois dernières pages, je ne savais pas qu'elles seraient ça, ce qu'elles sont,
d'accord,
une semaine avant de finir l'album. Et je n'étais jamais inquiet, je n'ai jamais été inquiet. C'est ça, je parlais de flottant. Voilà, je suis resté flottant moi-même jusqu'au bout de ce travail. Et c'était, pour moi, c'était très, très... très agréable, peut-être pas pour le lecteur, mais pour moi.
pour rebondir sur le qualificatif de flottant, je trouve que depuis un peu la seconde partie de la trilogie du monstre, les poissons et les mammifères marins envahissent, pas au mauvais sens du terme, hein, vos cases. Et d'où vous vient cette fascination pour le monde marin?
Écoutez, c'est le... Je ne sais pas, j'ai dû être poisson au temps d'Ulysse, j'en sais rien. Non, mais c'est... j'ai une fascination pour la mer en général, et je n'ai pas forcément le pied marin, mais j'ai une fascination en général pour le vivant et pour le monde animal aussi, tout court. Hein. Donc, il est... peut-être que c'est plus impressionnant ou plus surprenant d'avoir effectivement une baleine dans le ciel que de voir un puma ailleurs, sur une branche. Hein. Mais en tout cas, non, l'animal... parce que simplement, je pense qu'à partir du moment où on prend la globalité de la planète, et ça a commencé d'ailleurs, la thématique de cette trilogie, en fin de compte, si on regarde bien, elle a commencé dans le sommet dans le sommet du monstre, mais dans l'après-sommet du monstre. Dans le deuxième volet, et le troisième et le quatrième, parce que finalement, comme j'avais... entre guillemets, prévu le 11 septembre, je ne pouvais pas, alors que c'était la thématique, c'était de développer l'obscurantisme. Mmh. Mais l'obscurantisme étant avéré, ayant prouvé son existence et ayant frappé de manière, on sait de quelle manière, un symbole de l'Occident, moi je ne pouvais plus rester là-dessus. Donc j'ai dû bifurquer, et en bifurquant, j'ai commencé déjà à aller sur le territoire qui allait être celui de coup de sang.
Oui.
C'est-à-dire que le monde animal est déjà là, confronté à un fou qui est Warhol. Enfin bon, ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, c'est les choses... à l'intérieur, je pense que tous les artistes, tous les auteurs, tous les écrivains ont ce fonctionnement-là. Chaque œuvre précédente nourrit la précédente. Il y a des métastases, au bon sens du terme, qui se développent venant du travail que l'on fait, d'une discussion qu'on peut avoir, ça va, voilà, des choses se transmutent et se transforment, et c'est comme ça que je vois en fait tout mon parcours d'auteur, hein, pour l'instant, il s'est fait de cette manière-là.
On peut peut-être l'apercevoir sur un personnage du sommeil du monstre, l'entraîneur de football de l'Iron Club.
Oui.
qui est multiconfessionnel. Oui. Et je trouve que c'est un personnage qui... Vous avez peut-être établi une filiation avec frère Lorenz, justement, qui...
Comme
un fil rouge ou une transition.
Il y a toujours un personnage qui me ressemble, qui me représente peut-être plus dans chaque histoire. Et c'est vrai que Lorenz, forcément, j'avais un peu ce rôle-là. Et je suis plus près de son âge, lui, que de celui de Julia et de Rome.
Pour en finir avec la littérature, vous avez jamais eu envie de vous lancer dans un roman illustré, justement, comme Munoz a pu le faire avec Camus ou Tardi avec Céline?
Là, ils ont accompagné des textes hyper 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 prestigieux, importants. Je l'ai fait récemment dans une édition de bibliophile très 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 limitée. Je l'ai fait avec Ulysse.
D'accord.
Homère. J'ai fait une sélection de. Je l'ai appelé Ulysse in Love. Et j'ai montré les scènes, les séquences d'Ulysse confronté aux femmes. Il en a eu beaucoup dans sa vie et des super intéressantes. C'est un peu un livre où il y a 14 peintures. Des textes choisis. Donc ça, c'est des rencontres qu'on peut faire, bien sûr. Je le fais.
Vous parlez de peinture, donc justement, question a priori stupide, mais c'est quoi la différence entre dessiner de la bande dessinée et être peintre
Non, mais c'est une question pas stupide, elle est compliquée. Elle est très compliquée. C'est deux états totalement différents. L'état d'auteur de bande dessinée, on est quand même avec la narration, on est quand même avec un déroulé, avec une histoire, avec un horizon qui a une fin, avec la gestion de cette narration, l'équilibre, avec un rythme. Donc là, je parle de narration, ça ne veut pas forcément dire verbe, écriture. Il y a ça, bien sûr, mais je l'exclus. Même par exemple une bande dessinée sans texte, pendant par exemple Arzac, qui est une merveille absolue de Moebius, c'est un déroulement qui est narratif malgré tout, visuellement narratif. Alors que le processus de peinture c'est tout l'opposé, c'est de synthétiser ou par un geste, par un tableau, même s'il est réaliste, ce qui est mon cas. Le réalisme est toujours c'est pas l'hyperréalisme, mais peut être dérangeant en peinture. Moi, je considère que c'est dérangeant, ça n'a pas de sens. Mais le réalisme, il y a toujours une part qui décale, et ce décalage, il est dans le tableau même, il a une fonction dans ce tableau-là, il produit un effet, et il faut le rendre, cet effet. On ne sait pas lequel il est, c'est mystérieux. C'est le moment où le tableau, on se dit, il est fini. Et en général, il ne faut jamais qu'il soit fini. Il faut qu'on lâche le pinceau en se disant, c'est pas fini, parce que quelque chose m'échappe. Si rien n'échappe à un peintre lorsqu'il livre un tableau, c'est qu'il a raté son tableau, moi, je pense. Donc voilà, c'est quand même deux mécaniques et intellectuelles et physiques différentes. Physique aussi, parce que la peinture, c'est physique.
Ouais.
C'est très physique. Le dessin, ça l'est moins. Même si moi, le fait de travailler par cases et de peindre sans avoir à contourner les bulles, parce qu'avant, je faisais comme tout le monde, pendant longtemps. Je faisais une bulle, j'écrivais le texte, et puis après, quand je peignais, il fallait peindre autour de la bulle pour ne pas... Bon, c'est absurde.
Ouais.
Aujourd'hui, on peut se passer la bulle, on peut la rajouter sur ordinateur. Et donc, malgré tout, le dessin, aujourd'hui, est quand même un geste de peinture, même quand je fais des... Mais lorsque je passe sur un grand format, évidemment, le geste est différent, et c'est tout le corps qui
travaille. Donc vous préférez les grands formats, en fait, en peinture?
En peinture, oui, bien sûr. Ouais. Je fais des petits formats pour mes albums.
Mm-hmm. Je sais qu'il y a eu une édition numérique de Julia et Rome, mais qui ne consistait pas, si j'ai bien compris, simplement à une reproduction numérique de la bande dessinée. Le support numérique avec toutes les possibilités que ça peut apporter en termes de créativité, est-ce que c'est une piste qui vous intéresse ?
Et ça m'a intéressé de le faire. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça a donné. Je crois que ça n'a pas marché ou ça ne marche pas, parce que je crois que les gens ne sont pas va falloir du temps pour arriver à ça, mais c'était passionnant à faire, parce que du coup, on avait l'histoire était, se lisait case par case.
Oui.
Donc on n'a pas, quand on ouvre un album, qu'on le veuille ou non, on voit toutes les images, même si on ne veut pas les voir, on les sent. Alors que là, on avait une image, comme au cinéma, vous ne savez pas quel sera le plan d'après, quelle sera l'image d'après. Et donc vous avez l'image, alors vous avez une version, vous pouvez choisir la lire, lecture, donc vous avez le texte qui est écrit, les dialogues et le texte, avec en plus une bande-son musicale que j'avais demandé à Goran Vejvoda, qui est un musicien avec qui je travaille. Et il y avait une autre version où le texte était lu, donc il n'y avait pas à lire, le texte disparaissait de l'image, il n'y avait que l'image, il y avait la bande-son. Et il y avait le texte était lu. Alors c'est moi qui l'avais lu en plus.
D'accord.
Voilà. Donc c'est une version aussi intéressante. Tous ceux qui l'ont vu, regardé ou lu, l'ont trouvé intéressant. Voilà. Mais après ça s'arrête là. Après chacun en fait ce qu'il veut. Et puis surtout, on n'en est pas encore là. Je crois que on est obsédé par nos petits appareils, mais en même temps il y a tellement de concurrence entre guillemets, tellement de concurrence de produits. Que finalement, évidemment, tout ça s'est trouvé dilué.
Ouais, le format de la bande dessinée se prête de toute façon assez mal à la...
Mais finalement, est-ce que la tablette, est-ce que lire, moi, c'est, je comprends, c'est très bien comme ça d'ailleurs. Hein. Moi, je trouve très bien que le livre reste, quel qu'il soit, que la bande dessinée reste sous forme papier, c'est sa fonction, son origine est là et c'est très très bien comme ça. Moi, les tablettes pour lire, par exemple, des romans, je n'aime pas ça. Je ne peux pas lire un roman sur une tablette, mais par contre, j'aime bien l'idée d'en avoir une. J'en ai une, d'ailleurs, dans laquelle je peux mettre, pas d'ailleurs des romans, d'ailleurs, mais plutôt des essais, des textes, des choses qui, voilà, à lire. Et je me balade avec le poids de 500 kilos de bouquins, tranquillement, et je peux aller piocher, chercher une... C'est passionnant. Mm-hmm.
Tout à fait. Vous avez quand même, vous faites pas de musique, mais vous avez quand même un projet en fait musical avec Eric Truffaz. J'en parle parce que le CD en fait est sorti de là.
Il y a même un vinyle. Ouais.
Et un vinyle qui doit être pas loin. Vous pouvez nous parler un peu de Human Being.
Alors, Being Human Being, c'est un concept, un spectacle, un concert. Donc, avec Eric Truffaz, qui était un des plus grands trompettistes au monde, hein, je pense, on peut le dire, avec Murkoff, qui est un très, très grand musicien électronique, vraiment une pointure, un type formidable, qui est mexicain, avec Mahu, qui est un percussionniste de génie, et puis parfois un batteur qui s'adjoint à la troupe. Et moi, je suis sur scène aussi avec une console tactile, j'interviens sur la projection du film. Alors le film qui est projeté sur un grand écran ou parfois sur trois écrans, c'est un film qui est fait à partir de mes peintures, un film que j'ai fait moi-même, que j'ai monté, et qui raconte une progression un peu qui est liée finalement à l'humain, à l'humain et à sa planète, forcément, on n'y échappe pas. Et donc ce spectacle, c'est de la musique composée pour ces images, en partie, mais il y a aussi toute une part d'improvisation. Et moi, j'interviens sur ces images en les démultipliant d'une certaine façon, en créant des effets. Donc c'est un spectacle qui, pour l'instant, on l'a joué déjà une trentaine de fois, qui tourne, qui va voyager de plus en plus. Je ne peux pas le suivre parce que moi, ce n'est pas ma fonction d'aller faire des concerts, mais c'est amusant de le faire de temps en temps et c'est agréable.
Merci. Je vais donc clore le débat. Je vais remercier Inky Village.